Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ma pipe, qu'est-ce que t'as fait? Ma pipe, où est ma pipe dans le nom?
Bah ta pipe, Henri Salvador, allez à l'exposition René Magritte.
Forcément.
Bien sûr. Des pipes, du ciel, des grelots, des mots, des silhouettes d'hommes chapeautés. Bienvenue dans l'univers magique de René Magritte. On vous raconte le destin et l'œuvre du peintre surréaliste à l'occasion de la belle exposition, très belle expo, qui lui est consacrée au centre Georges Pompidou. C'est à Paris jusqu'au 23 janvier. Bonsoir Didier Ottinger.
Bonsoir. Bonsoir.
Soyez le bienvenu chez nous. Vous êtes le commissaire de cette exposition qui commence avec l'œuvre, je dirais la plus connue, de René Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Alors, qu'est-ce que ça représente? Une pipe avec un texte en dessous, c'est ça?
Voilà. Et l'œuvre qui nous accueille à l'entrée de l'exposition a son sous-titre en anglais.
Oui, alors pourquoi? Parce qu'il en a fait plusieurs versions, c'est ça, pour le monde entier?
Effectivement. Cette pipe est devenue tellement célèbre, il a tellement été identifié à cette pipe qu'il en a fait une série de versions. Il y en a trois dans l'exposition.
Pourquoi? C'est donc une bonne représentation du peintre, d'une certaine façon, de son univers, de son...
Disons que, à la fois par son titre et par son image, l'œuvre rassemble tout ce qu'ont été les préoccupations et les enjeux de l'art de Magritte.
C'est-à-dire des images, on va avoir le temps de développer, hein, mais des images et des mots.
Oui, avec un titre de l'œuvre qui est « La trahison des images ».
Oui, parce que ceci est n'est pas une pipe, c'est sur le tableau, donc c'est sous le dessin, et il y a le titre de l'œuvre évidemment qui est différent. Voilà. C'est lui qui donnait d'ailleurs le titre
à
ses œuvres.
Le choix des titres est assez particulier chez Magritte, et il y a peu d'équivalent dans l'histoire de l'art moderne. Magritte, on le verra, était proche d'un cercle d'amis, essentiellement des philosophes et des poètes, et il leur soumettait systématiquement les nouveaux tableaux qu'il venait de réaliser, et il se livrait à une sorte de jeu jusqu'à ce que l'un d'entre eux identifie le sujet idéal.
Ce tableau qui sort en 1929, quelle réaction provoque-t-il? Est-ce qu'il fait scandale?
Il fait scandale d'une certaine façon, mais un scandale très feutré, parce qu'on est en 1929. Il est connu dans un cercle qui est un cercle, somme toute, assez limité, qui est celui des artistes surréalistes. Et là, ceux qui sont susceptibles d'en comprendre les enjeux et de s'en irriter, ce sont les surréalistes eux-mêmes.
Alors quand on voit le dessin d'une pipe, tout aussi joliment soit-elle dessinée et qu'on lit en dessous « ceci n'est pas une pipe », on se dit « mais il nous prend pour des fous, René Magritte ». Et pourtant, il prétend avoir dit la vérité. Pourquoi ?
Au contraire, il se montre extrêmement pédagogue et tout à fait clair dans ses intentions puisqu'il vous dit « cette image n'est pas une vraie pipe ».
Pourquoi ?
Bah, si vous voulez mettre du tabac dedans, ça ne va pas marcher,
voilà,
c'est ça.
Si vous voulez labourer, ajoute-t-il, il vous sera difficile de
c'est
faire.
C'est ça qu'on appelle, Didier Ottinger, le surréalisme.
C'est une des variantes du surréalisme, un mouvement qui ne peut pas se réduire à une ou deux idées. C'est un des plus grands en termes de longévité. Mouvement du XXe siècle, il se développe sur près de 40 années. Donc il connaît plusieurs phases, plusieurs épisodes. Celui-là, la pipe, illustre un moment très particulier qui est le surréalisme de 1929.
C'est un surréalisme belge, c'est ça? René Magritte a d'abord frayé avec les surréalistes de son pays?
Voilà, il rejoint un personnage qui est central pour l'histoire du surréalisme belge, qui s'appelle Paul Nouget, qui est un scientifique et qui est aussi un communiste convaincu. Et c'est lui, Paul Nouget, qui va colorer le surréalisme belge, lui donner un tour très particulier, assez différent, et ça créera un certain nombre de problèmes, du surréalisme parisien, tel qu'il se développe au même moment, sous l'égide d'André Breton.
Alors on parlera de cette rivalité avec André Breton. En revanche, il y a une amitié avec Dali. Amitié et inspiration, on peut dire ça?
Oui, alors il y a une amitié pour le personnage parce que les deux, au fond, se ressemblent, mais en même temps, tout les sépare, tout les distingue. Magritte, lorsqu'il rencontre Dali, est évidemment très amusé, séduit par l'intelligence, le brio du personnage, mais en termes de représentation artistique, on est aux antipodes. Vous avez d'un côté quelqu'un qui écrit une autobiographie d'Ali qui se qualifie lui-même de génie, et de l'autre côté un Magritte qui, lui, vous le voyez à travers ses images, sa vie quotidienne, affecte de ressembler à l'homme du commun.
Oui, c'est vrai qu'il se cache, derrière ses toiles presque, et à la fois ce qu'il partage avec Dali quand même, Magritte, c'est les motifs, c'est ces petits objets qu'on retrouve dans chaque toile, ça les rapproche quelque part.
Oui, si ce n'est que Dali reste fidèle à la définition première de la beauté surréaliste, c'est-à-dire une beauté accidentelle, faite d'extravagance, d'arbitraire, alors que très vite, Magritte va lui vouloir réaliser une peinture qui se réclamera d'une forme de logique et de rationalité. C'est assez opposé.
Donc ils sont différents, mais ils passent des vacances ensemble. Je sais pas, moi je suis, alors j'ai des questions vraiment de curieux.
Dans un premier temps,
ça fait quoi un Magritte et un Dali qui passent des vacances ensemble?
Ça fait que oui, effectivement, ils font des blagues ensemble. Ils se rendent, Magritte se rend avec son épouse Georgette chez Dali à Cadaquès pour passer des vacances avec Paul-Éluard. Et là, ils s'amusent comme les surréalistes avaient l'habitude de s'amuser dans des jeux de toute nature.
Et alors justement, c'est autour de Georgette, la femme de René Magritte, qu'André Breton va un peu s'énerver.
Oui, la rupture, la première rupture, parce qu'il y en aura plusieurs, hein, les caractères de Breton assez autoritaire.
Et chef de file des surréalistes parisiens, on rappelle.
Et celui de Magritte, très réfractaire, très indépendant, très belge aussi, va provoquer un certain nombre de clashs. Le premier a lieu en 1929, lorsque Magritte est invité à dîner chez Breton, rue Fontaine, avec son épouse Georgette, et que, je pense, par provocation, il lui demande d'arborer un petit pendentif avec une croix. Et ça provoque évidemment l'indignation de Breton, qui avait créé le surréalisme dans une position farouchement anticléricale. Et il demande à Magritte de demander à Georgette de retirer ce pendentif, ce qu'elle refuse de faire. Les deux Belges se lèvent et quittent le domicile d'André Breton.
Du rififi chez les surréalistes. Oui.
Mais est-ce que c'est un mode de vie, le surréalisme? Vous nous disiez, ils sont en vacances, ils passent des vacances de surréalistes, c'est-à-dire qu'ils font des blagues, etc. C'est quoi le mode de vie?
Là aussi, il ne faut pas forcément céder à l'imagerie et au folklore qui est celui de l'artiste surréaliste tel que Dali l'incarne. Parce que c'est lui, évidemment, qui a été le plus loin dans l'identification d'un art et d'un artiste à une figure.
Le premier métier de René Magritte, on ne sera pas très étonné, c'était affichiste publicitaire.
Oui, Magritte, évidemment, pendant des années, ne vend pas les tableaux qu'il produit parce que, regardez-les et imaginez-les dans le contexte des années 20, c'était quand même assez provoquant. Donc, il est contraint, pour faire bouillir la marmite, comme il le dit, d'avoir une activité de dessinateur de papier peint, puis ensuite d'affichiste, et il réalise de nombreux projets pour la communication, pour la publicité.
C'est travaux imbéciles, c'est ça?
Oui.
Il avait du mépris.
Travaux imbéciles, mais travaux qui lui ont beaucoup appris, parce que si Magritte est capable un peu plus tard de produire des images qui ont une telle puissance de frappe visuelle, c'est parce qu'il a travaillé dans le contexte de la publicité et que là, il a développé un savoir-faire qui est celui de l'efficacité de l'image.
Et de jongler avec les images et les mots, bien sûr. D'où vient René Magritte? Quelle a été son enfance? Tiens, peut-elle expliquer son œuvre? Lui, s'y refusait, en tout cas, à la suite. Tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Ce qui est découvert et qui était inconnu, puisque découvert, fait toujours scandale. Non pas pour être scandaleux, mais en fait, brisant avec des habitudes de pensée, c'est scandaleux.
Un paysage de terre cuite, un ciel qu'on dirait de Magritte.
Ce que je donne à penser par ma peinture ne peut pas se dire avec des mots.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
René Magritte qui nous parle de sa peinture. On se promène dans son imaginaire à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 23 janvier. C'est le commissaire de cette exposition, Didier Ottinger, qui nous guide. On va parler de l'enfance de Magritte. Il naît en 1898. Dans quel environnement?
Dans un environnement assez modeste. Son père est tailleur, sa mère modiste. Ils vivent assez chichement et ils connaissent des difficultés financières qui vont être à l'origine du suicide de sa mère. Et ça va être un des événements traumatisants de la jeunesse et de l'enfance de Magritte. Et on en trouvera la trace jusque dans l'œuvre de la maturité, évidemment.
Oui, on va en parler de ce suicide.
Il y a de l'art dans la famille Magritte. La maman est modiste, ça veut dire qu'il est déjà un petit peu biberonné au dessin.
Oui, en tout cas, ça prédispose le contexte familial à être réceptif aux dons précoces du jeune Magritte. Et c'est vrai qu'on regarde sa biographie et on se rend compte qu'il a été dans une école d'art, à peine avait-il 12 ans. Donc il fallait que ses parents aient imaginé qu'il avait un potentiel artistique.
Il naît en Belgique, c'est dans quelle région de la Belgique?
Dans le Hainaut, à...
Oh, c'est pas grave si on n'a pas le nom du village, donc on situe le Hainaut, donc un jeune garçon d'une douzaine d'années qui prend des cours de peinture, et donc ce drame dont vous nous avez parlé, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on attribue justement à la difficulté économique qui était celle de la famille Magritte, une sorte de désespoir dans lequel est tombée sa mère, et le traumatisme vient du fait que Magritte est là au moment où on sort sa mère de la cendre dans laquelle elle s'est jetée.
Elle s'est noyée.
Vous dites que ce drame a marqué Magritte et marqué son œuvre. Pourtant, lui a toujours refusé de dire qu'il y avait de ce drame, de ce suicide, de sa mère dans son œuvre. Pourquoi ?
Ben, ça, c'était une position de principe qui est celle quasi théorique du surréalisme belge. Comme je vous l'ai dit, le surréalisme belge est fondé par un marxiste et par un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui va se défier de l'inconscient, de la lecture psychanalytique et autres.
Donc il ne croit pas à la psychanalyse.
Il la refuse en tout cas, mais c'est difficile d'échapper à son inconscient. Et on voit dans les tableaux de Magritte que lorsqu'il représente des visages ou des personnages, des couples, il arrive qu'ils leur mettent sur la tête un voile.
Oui, il y a ce tableau incroyable où on voit un couple s'embrasser et chacun a un voile sur le visage, donc ils s'embrassent à l'aveugle, c'est ça ?
Voilà, il y en a un autre dans l'exposition deux toiles plus loin qui s'intitule Les habitants de la rivière et qui sont aussi des personnages sans tête. Donc là, ça veut dire la réminiscence de ce traumatisme originel.
Il ne veut pas, c'est une façon de se voiler. J'essaye peut-être la psychanalyse de bas étage, mais de se voiler face au souvenir de la mort de sa maman.
La difficulté qu'il a à évoquer cet épisode, évidemment.
Alors, René Magritte refusait la psychanalyse, mais il adorait la philosophie. Elle nourrissait vraiment, elle a nourri son œuvre. Et de quelle manière ?
Alors, on le voit précocement. Là aussi, c'est le contexte du surréalisme belge. Il est entouré de poètes et de philosophes. Et Magritte, très tôt, on le voit dès l'ouverture de l'exposition, puisque les visiteurs sont accueillis par un tableau de 1936 qui s'intitule « La lampe philosophique » et qui montre un autoportrait de Magritte en philosophe. Et il est confronté, souvenez-vous, à une bougie. Et là, évidemment, ça renvoie à tous les mythes de représentation, de création de l'image qu'on retrouvera plus loin à propos de l'allégorie de la caverne de Platon, par exemple.
Et il y a aussi ce tableau qui est l'affiche de l'exposition, Les vacances de Hegel, c'est en 1958 qu'elle a été peinte. Voilà. Alors c'est en gros sur fond corail, vous voyez un parapluie ouvert et sur ce parapluie est posé un verre d'eau. Alors moi je suis pas capable de dire s'il a passé de bonnes vacances le philosophe allemand avec ce tableau.
L'idée de Magritte, c'était d'une certaine façon de prendre congé avec ces philosophes qui avaient écrit, et c'était le cas de Magritte, de Hegel en particulier, que l'art était dépassé, que c'était quelque chose qui appartenait au passé. Évidemment, pour quelqu'un comme Magritte qui continue à agir et à produire des tableaux, c'est quelque chose qu'il faut congédier comme type de pensée, et il le fait en envoyant Hegel en vacances. Et il le fait de façon très ironique, puisque un des principes de la pensée de Hegel, c'est cette notion de dialectique, c'est-à-dire la résolution ou la confrontation des contraires, que Magritte illustre avec ce verre et ce parapluie en se disant, voilà, la dialectique est accomplie, que Hegel aille en vacances.
Didier Ottinger, vous nous disiez tout à l'heure que Magritte, pour vivre tout simplement, était affichiste, il faisait de la publicité. Est-ce qu'il a dû mener de front ces deux métiers ou est-ce qu'il a réussi à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire à abandonner la publicité pour vivre de la peinture?
Il aura pu abandonner la publicité le jour où il disposait de suffisamment de revenus liés à la vente de ses tableaux. Mmh. Et c'est très tardif que la chose advient. Ça se passe au milieu des années 50, lorsqu'un galeriste américain lui organise ses premières expositions à New York. Et là, c'est la révélation. Ça lui permet enfin d'abandonner ce métier qu'il avait qualifié un peu plus tôt d'imbécile.
Il y a une étape importante dans la biographie de René Magritte, Didier Ottinger. C'est au milieu des années 20, une toile qu'il va voir et qui va complètement bouleverser sa création, c'est laquelle ?
Alors c'est lui qui nous raconte un rêve qu'il fait. Alors là, c'est là où il est quand même un peu plus surréaliste que de raison. Et il nous raconte qu'une nuit, il voit apparaître un tableau qui représente un œuf gigantesque prisonnier d'une cage. À son réveil, il peint le tableau et il lui donne un titre évidemment très emblématique. Il l'appelle « Les affinités électives ». Les affinités électives, c'est effectivement l'accord entre deux objets et non plus cette beauté fortuite et accidentelle qui était celle dont il avait eu la révélation lorsqu'il s'est converti au surréalisme, qui était le tableau de Giorgio de Chirico, qui présentait le moulage d'un dieu antique confronté à une paire de gants en caoutchouc.
Alors, est-ce qu'il y a un sens à tous ces objets ? On parlait de la pipe tout à l'heure. En préambule, Sidonie faisait une petite liste des objets. Il y a le grelot, par exemple. Qu'est-ce qu'il signifie, le grelot, dans les toiles de Magritte ? Est-ce qu'on peut lui donner une signification ?
Bien sûr, parce qu'on voit un double portrait, une sorte d'écorché où le visage d'un personnage a glissé et on voit ce qu'il y a à l'intérieur du crâne. Et ce que Magritte peint à l'intérieur de ce crâne, ce sont des grelots. Et les grelots, effectivement, dans toutes les traditions, c'est l'emblème de la folie.
Les bouffons
possédaient rituellement des grelots. Donc c'est cette part d'ombre, cette part d'inconscient, cette part d'extravagance qui, au fond, est une des démonstrations de ce qu'est la théorie surréaliste de la pensée.
Alors des pipes qui n'en sont pas, des grelots extravagants comme vous dites, et puis des corps de femmes aussi, ils sont très nombreux dans l'œuvre de Magritte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Magritte et les femmes, quelle histoire ? À tout de suite les curieux.
Ma pipe, qu'est-ce que t'as fait ? Ma pipe.
Vous écoutez RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il nous a laissé une œuvre joyeuse, mystérieuse, casse-tête et colorée. On découvre en avant-première l'exposition consacrée au peintre surréaliste René Magritte. Ça se passe au centre Georges Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 23 janvier, il faut y aller, c'est vraiment magnifique et très intéressant. Et puis pour avoir des petites clés de compréhension, nous avons avec nous le commissaire de cette exposition, Didier Ottinger. Alors il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué ça en visitant l'expo, dans l'œuvre de René Magritte. Des femmes sous toutes leurs formes, des corps nus, des corps sans tête, des corps découpés, des corps emboîtés. Qu'est-ce qu'il voulait nous raconter de manière générale avec tous ces corps ?
Je pense que déjà il voulait témoigner de la grande passion et passion charnelle que lui avait inspirée son épouse Georgette. Femmes, c'est toujours elles.
Ah, les femmes, c'est elle, c'est juste
elle.
Une Georgette.
Voilà, c'est Georgette. On a les photos de Georgette, donc on sait qu'elle était aussi jolie que les images que Magritte peint.
Elle lui servait de modèle ?
Ah, exclusivement, il n'était pas question qu'il y en ait une autre.
Donc c'est le corps de Georgette qu'on voit sous toutes ses formes. Alors il y a par exemple cette femme découpée dans l'exposition, dont chaque partie du corps est encadrée et superposée. Ça s'appelle l'évidence éternelle. Quel est le sens de cette toile ?
Alors peut-être qu'on peut trouver le sens de cette œuvre en la comparant avec une œuvre du même type qui est réalisée par Ingres, le grand peintre néoclassique qui, lorsqu'il a voulu concevoir sa peinture de Vénus, donc l'incarnation même de la beauté, a réalisé une série de dessins qui sont toujours au musée Ingres de Montauban, qui sont des dessins qui superposent des fragments anatomiques visiblement de modèles différents. Ça renvoie, comme il est renvoyé dans l'exposition, à un fameux récit, à une histoire de la beauté, qui est celle que raconte Cicéron à propos d'un peintre de l'Antiquité qui était Zeuxis, et à qui on avait demandé de peindre l'effigie de la plus belle femme possible. Il avait appelé un certain nombre de jolis modèles et il avait expliqué à ses commanditaires que pour réaliser cette beauté parfaite, il fallait choisir les bras de l'une, les jambes de l'autre, la tête d'une troisième, et que la beauté ne pouvait pas être dans une seule enveloppe, elle ne pouvait pas être créée.
Sauf chez Georgette.
Ah, sauf peut-être chez Georgette.
Parfaite.
Alors justement, on va continuer de parler d'autres œuvres de René Magritte, notamment de sculptures, mais peut-être d'abord cette relation avec Georgette. À quel âge se sont-ils rencontrés ? C'est quoi leur histoire ? L'histoire de ce couple que vous nous dites qui a duré.
Non, c'est une histoire d'amour, c'est une love story absolument parfaite, puisqu'ils se rencontrent lorsque Georgette a 13 ans. Magritte en a 15.
Ouais.
Et ils se souviendront toujours de cette première rencontre, et à partir de cette étincelle originelle, ils se retrouveront, ils se marieront et ils vivront ensemble.
Quel rôle joue-t-elle auprès de lui ? Vous nous avez dit qu'elle l'inspire, qu'elle lui sert de modèle, ça va peut-être au-delà.
Oui, elle le tense également, parce que Magritte n'avait pas d'atelier, il n'en a jamais eu. Ça correspondait évidemment à son opposition à la mythologie de l'artiste et à son folklore. Et on sait qu'il déroulait un petit tapis dans le salon du pavillon où vivaient les Magritte. Il mettait son chevalet et il fallait absolument qu'il n'y ait pas une seule goutte de peinture sur le parquet. Donc Georgette veillait au grain.
Donc c'est pas mêler chaussons pour rentrer dans la pièce.
C'est mettre le tapis pour peindre.
Mais attention à pas laisser de traces de peinture. Ils ont eu des enfants. C'est quoi leur histoire ?
Non, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais ils n'ont jamais eu d'enfants. Par contre, ils ont eu beaucoup de loulous.
C'est quoi,
qu'on voit à la fois dans les photos et même dans les tableaux de René Magritte. Ce sont des loulous de Poméranie. Et on voit, suivant les moments, il y a le loulou blanc, le loulou noir qui est là, omniprésent.
Pour continuer sur cette thématique du corps, il y a un tableau qui est extrêmement connu. Il s'appelle Le Viol. On voit un visage de femme plein pot avec, au milieu de son visage, un corps avec les seins, le sexe. Qu'est-ce qu'il raconte, ce tableau ? Il est extrêmement fort. Il a fait scandale quand il est sorti.
Oui, il a fait scandale. Il a été dessiné pour une couverture d'une conférence qu'avait donnée André Breton à Bruxelles, qui s'intitulait « Qu'est-ce que le surréalisme ?». Donc c'est une sorte d'hommage à Breton. Et le titre, je pense, renvoie davantage à l'effet que produit le tableau sur le spectateur qu'à son ni iconographie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente vraiment. Le viol, c'est vraiment, vous l'avez éprouvé, hein, c'est une charge érotique très puissante qui heurte et qui frappe le visiteur qui est confronté à cette œuvre.
C'est une œuvre très dure à regarder, ouais. Très désagréable.
Ouais. On est au milieu des années 30, c'est ça, 1934,
oui, il conçoit la première version en 1936 et ouais. Nous avons dans l'exposition une version plus tardive des années 40.
D'accord. Dans la société française ou belge de cette époque, c'est encore un art confidentiel ou c'est un art qui fait scandale pour le grand public? Pas encore.
Non, on n'est pas du tout dans une époque où les expositions, où les galeries connaissent le succès qu'elles connaissent aujourd'hui. L'art et l'art avancé, l'art contemporain de l'époque est un art extrêmement confidentiel.
Mais est-ce qu'il est en avance sur son temps? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. C'est-à-dire, est-ce que ça reste un art confidentiel parce qu'il est trop compliqué, trop en avance sur son temps?
C'est ce qu'on a l'habitude de dire,
ouais,
de façon
c'est
un peu complaisante.
Au
cœur de cette exposition, il y a aussi une grande sculpture, immense, en bronze. Et c'est un corps de femme emboîté, pas facile à décrire évidemment à la radio. Il sculptait aussi René Magritte?
Alors juste à la fin de sa vie, certains disent sous la pression du marché, mais c'est pas évident, il a réalisé 5 projets de sculpture qui ont été réalisés après son décès. Mais il en a conçu absolument la forme, les détails, il a fait les dessins très précisément.
Alors il y a des corps de femmes, et puisqu'on retrouve aussi beaucoup dans l'œuvre de Magritte, ce sont ce que j'appelle des hommes chapeautés. En fait, c'est des ombres. On reconnaît la silhouette d'un homme avec un chapeau. C'est lui, on dirait un autoportrait du personnage.
Je crois que c'est l'archétype de l'humanité moyenne telle que Magritte l'a conçu.
C'est Monsieur Tout-le-Monde, en fait.
Voilà, c'est une sorte de pictogramme de l'homme commun.
C'est parfois compliqué de donner un sens aux œuvres de René Magritte. Par exemple, ce tableau, L'Heureux Donateur, tableau peint dans les années 60. Dans la silhouette, il y a un décor, une maison, un ciel, une lune. Comment vous l'interprétez?
Celui-là en particulier, ben, peut-être comme le tableau du double secret qui révèle des grelots, là on a dans la silhouette d'un homme ce qui constitue la complexité même de l'être humain, c'est-à-dire ces facteurs d'opposition entre le jour et la nuit, la raison et la folie, enfin l'idée encore une fois très dialectique qui est au cœur de l'image de Magritte.
L'idée que tout homme et toute femme est un monde, c'est ça ? À lui tout seul.
Est un monde et un monde contradictoire.
Bon, je m'essaye à l'analyse, vous avez vu,
c'est
Thomas.
Bien, c'est pas mal, hein,
franchement. Elle m'a plu cet exploit, elle est formidable.
Je suis bluffé. René Magritte était-il un homme heureux? Les couleurs vives de ses toiles, naïveté, légèreté ou engagement philosophique?
Vous écoutez RTL.
Qui est René Magritte? Quel est cet étrange personnage, à la fois grave et désinvolte, qui déteste le titre d'artiste ou de peintre? Alors que toute sa vie durant, la peinture fut sa première activité.
La curiosité est un vilain défaut.
La peinture sert à évoquer ce qui nous importe le plus, je crois, c'est-à-dire le mystère du monde.
Jusqu'à 22h,
la qualité sensationnelle de l'art de Magritte vient de son usage inhabituel à exprimer les images de tous les jours.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On explore donc l'œuvre et la vie du peintre René Magritte à l'occasion de l'exposition du Centre Georges Pompidou à Paris jusqu'au 23 janvier. Exposition mise en scène par Didier Ottinger, notre invité qui est commissaire de cette exposition. Magritte aimait-il peindre? La question peut sembler saugrenue, mais
oui,
bon.
Oui, c'est pas évident. Je pense que ça l'ennuyait, comme beaucoup de choses l'ennuyaient. Et il le dit à un moment donné dans une séquence filmée. Ah, il faut bien œuvrer, parce qu'il fallait quand même réussir à produire quelques tableaux pour nourrir Georgette et assurer le train de vie. Mais visiblement, il passait beaucoup plus de temps à écrire qu'à peindre.
Donc c'est pas une coquetterie quand
je crois
dis
pas,
ça.
Non. Ouais.
On est frappé par la couleur de ces toiles, le côté ludique, facétieux de certains tableaux. Est-ce que, je sais pas si c'est facile de répondre à cette question, est-ce que c'était un homme joyeux, heureux, Magritte?
Alors, il était joyeux à proportion des époques qu'il a traversées.
Ben oui.
L'art des années 30 est très marqué par ce qu'étaient ces années de plomb. Mm-hmm. Et c'est une peinture qui est empreinte de sujets dramatiques. Pensez aux jours gigantesques, des scènes presque d'étreintes un peu violentes, etc. Et puis, soudain, tout s'éclaire autour de 1943, lorsqu'il apprend à la radio que les troupes allemandes sont défaites devant Stalingrad. Et là, il imagine ce que sera cette peinture d'après-guerre et qui sera la peinture de la paix retrouvée. Et là, il se lance dans une aventure qu'il va théoriser, qu'il va appeler la période solaire ou la période Renoir.
Mais ça, est-ce que ça va plaire à son meilleur ennemi, André Breton, qui
non,
est le chef de file des surréalistes?
Il va vouloir faire de ce projet d'un art du plaisir et du bonheur de vivre un projet de réforme du surréalisme lui-même. Il va le soumettre à André Breton et André Breton trouvera que c'est pas quand même à Magritte
oui,
de réformer le surréalisme.
Puis il veut continuer de ronchonner, André Breton, quoi. On reste dans le noir, on est un peu...
Rester dans le noir, en tout tout cas, ne pas céder à ce plaisir apparent. Oui.
Mais c'est une lutte de pouvoir que vous nous décrivez.
Non, c'est le contrôle est très efficace et très productif, finalement, que André Breton a exercé sur l'ensemble du mouvement surréaliste. Pensez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il est en exil aux États-Unis, il revient et il reprend. Il permet au surréalisme de retrouver presque sa vitalité d'avant-guerre. C'est un homme d'une envergure intellectuelle exceptionnelle, mais évidemment aussi quelqu'un qui avait des idées très précises et elles ont été plutôt bénéfiques pour le mouvement.
Alors René Magritte a trouvé une autre occasion de fâcher le patron, André Breton, en adoptant un nouveau style. Encore une fois, le style vache, c'est quoi ?
Alors, le style vache, c'est vraiment une gifle qu'il lance au milieu parisien et sans doute à Breton en particulier. Comme Breton vient de rejeter avec pas mal d'audace et de virulence son projet de réforme du surréalisme, Magritte a la possibilité pour la première fois d'exposer à Paris, il n'a jamais exposé à Paris. En 1948, une galerie parisienne l'invite à exposer et là, il règle ses comptes avec les Parisiens, avec André Breton, en peignant en quelques jours des tableaux absolument virulents, des tableaux d'un extraordinaire mauvais goût.
C'est vrai que c'est assez moche.
C'est très virtuose dans la laideur, ça peut exister aussi. Mais surtout, il semble en rajouter dans ce qui énervait profondément Breton, à savoir sa belgitude. On sait que dans les années 20, quand Breton et Magritte se rencontraient fréquemment, Breton reprochait à Magritte son accent belge. Et on sait aussi, par le témoignage des uns et des autres, que Magritte en rajoutait. Et là, quand il revient en 1948, il fait le belge, le bon gros belge.
Il y a des étoiles du bon gros belge dans votre exposition?
Bien sûr, il y en a une dizaine.
De cette époque de style vache, quand on dit belgitude, moi je pense aussi à l'autodérision.
Bien
Est-ce
sûr.
Qu'il y avait ça chez René Magritte?
Bien sûr, ce dont est capable effectivement les artistes belges, ce qui semble être plus difficile pour le penseur et l'intellectuel français tel qu'André Breton.
Alors on se régale à passer en revue les différents motifs récurrents comme ça dans l'œuvre de René Magritte. On a parlé de la pipe, du grelot, de la silhouette chapeautée, et puis il y a les rideaux aussi, il y en a souvent sur ces toiles, des rideaux qui s'ouvrent, c'est ça, ou qui se ferment?
Qui s'ouvre, qui se ferme, qui montre que le tableau est une scène de petit théâtre, que finalement tout ça n'est qu'illusion, et des tableaux qui reproduisent quelque chose qui est présent dans la peinture classique des Pays-Bas. On les retrouve chez Vermeer, on les retrouve chez Rembrandt. C'est vraiment un des signes de cette distanciation prise par ces artistes qui sont des virtuoses dans la représentation du réel, qui peignent des trompe-l'œil jusqu'à presque photographiques, mais qui témoignent quand même de l'illusion qu'ils sont en train de créer en mettant en scène cette réalité feinte derrière des rideaux.
Alors le rideau qui s'ouvre parfois sur le ciel, on entendait dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta tout à l'heure un extrait d'une chanson de Francis Cabrel qui parlait des ciels de René Magritte. Il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Alors, c'est vrai qu'à propos des rideaux, Magritte dit « mais tout n'est que rideau dans le monde ». Et quand il regarde le ciel, il sait ce que nous savons tous, c'est que derrière ces beaux nuages blancs et derrière ce ciel bleu, il y a la nuit, il y a les étoiles. Donc il sait que le ciel lui-même n'est qu'une forme de rideau.
Est-ce que René Magritte a connu du succès finalement assez tard dans sa carrière ?
Oui, il a fallu qu'il attende les années 50 et le milieu des années 50 pour qu'enfin un galeriste américain l'expose à New York et qu'enfin il soit reconnu commercialement.
Une toile aujourd'hui de Magritte, ça se vend très cher, ça vaut très cher aux enchères.
Oui, quelques dizaines de millions de dollars ou d'euros.
Et lui a été riche de son vivant.
Il a connu un certain succès à partir du milieu des années 50 et ça lui a valu lire la colère de ses anciens compagnons de bohème qui se sont détournés de lui et qui ont caricaturé cette fortune gagnée par Magritte.
Vous nous disiez tout à l'heure, Didier Ottinger, que Magritte n'aimait peut-être pas beaucoup peindre mais qu'il aimait écrire. Et dans l'exposition, il y a beaucoup de lettres. Pourquoi elles sont importantes et à qui écrivait-il?
Alors on voit que Magritte écrit à tout le monde absolument. Il répond aux critiques qu'il attaque dans la presse. Il lit un bouquin, et c'est ce qu'on voit, il lit des ouvrages philosophiques et il écrit immédiatement aux philosophes. Et une des plus savoureuses, quand on connaît la stature intellectuelle de quelqu'un comme Michel Foucault en France, on voit notre Magritte qui en 66 découvre l'ouvrage de Michel Foucault, Les mots et les choses, et immédiatement prend sa plume et lui écrit « Jeune homme, c'est pas mal votre bouquin, mais vous semblez confondre ressemblances et similitudes ». Et il continue sur ce ton-là.
Un homme très, libre. Très étonnant. À quel âge il meurt, Magritte, et dans quelles conditions?
Alors, il meurt en 67 et il meurt d'un cancer.
Il a 68 ans.
Oui, c'est ça.
René Magritte a beaucoup écrit, on l'a dit, il y a beaucoup de lettres, il a beaucoup peint, il a beaucoup théorisé. Qu'est-ce qu'il laisse aujourd'hui?
Il laisse une œuvre qui est reconnue génération après génération, et c'est ça, je crois, qui fait une grande œuvre au XXe siècle, c'est qu'on a pendant longtemps vécu avec l'idée d'un Magritte surréaliste, puis on a découvert un Magritte vache, puis on a découvert un Magritte qui peignait les mots et les choses, donc un Magritte conceptuel d'une certaine façon, puis certains artistes américains ont découvert un Magritte pop qui s'intéressait effectivement à l'affiche, à l'illustration et autres, et ça continue.
Il a des héritiers, Magritte, aujourd'hui ?
Oui, il en a plus qu'on pense, oui. Et on le voit, de certains artistes qui ont contribué, par exemple, à inventer ce qu'on appelle l'art conceptuel, c'est-à-dire un art de l'idée, lui rendent hommage aujourd'hui dans l'exposition même.
À voir, justement, au Centre Pompidou. Merci beaucoup, Didier Ottinger. C'était passionnant, cette exposition, La trahison des images. On peut la voir donc à Paris, Centre Georges Pompidou. Et c'est jusqu'au 23 janvier.
Merci beaucoup encore.
Vous écoutez RTL.